Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 5 février 2010. Comme vous le savez, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, nous avons réuni trois thèmes pour vous, à savoir l'inquiétude du président congolais Denis Sassou Nguesso sur la présence et les conditions humanitaires de plus de 100 000 réfugiés congolais, et aussi les affrontements des Dongo. Ils souhaitent leur retour le plus vite possible en RDC. Deuxième thème de ce soir, nous parlerons de la visite en RDC de Mme Laurette Okelius, vice-premier ministre belge, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et chargée de l'intégration sociale. Et un mot sur la culture congolaise, c'est dans notre dernier thème de ce soir, qui va porter sur l'adoption au Parlement des projets de loi sur la protection du patrimoine culturel congolais. Pour en parler avec moi dans cette émission, Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur, un journal qui parie à Kinshasa, le site Matadi, secrétaire de rédaction au journal La Tempête des Tropiques, aussi un quotidien qui parie à Kinshasa, et Olivier Baraka, journaliste au journal Le Miroir de l'Est, un journal qui parie à Beni et distribué à l'est du pays. Avant d'aborder nos trois thèmes de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment les trois thèmes retenus pour vous ce soir ont été abordés. La revue de presse avec Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux paris cette semaine à Kinshasa sont revenus sur la situation des réfugiés congolais de Dongo au Congo-Brazzaville. Une situation qui énerve le président Denis Sassou Nguesso, qui réclame leur retour en RDC, souligne Le Phare. Rebondissant sur le sujet, le palmarès évoque l'inquiétude du président du Congo-Brazzaville, qui serait en colère en rapport avec l'afflux de réfugiés venus de la RDC. Un afflux qui, selon lui, risquerait de submerger les autochtones et qui pousse la tempête des tropiques à inviter le gouvernement de Kinshasa à assister ses compatriotes présents au Congo-Brazzaville. Retour des Congolais réfugiés au Congo-Brazzaville, Lambert Mende apaise les esprits, signale l'avenir. Pour ce quotidien quinois, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo comprend le souci des autorités du Congo-Brazzaville et exprime la volonté de Kinshasa de voir ses ressortissants rentrer chez eux, étant donné que les conditions sécuritaires et humanitaires sont réunies pour leur retour à leur milieu d'origine. Sur un autre registre, Forum des As parle du ballet diplomatique belge déjà intense en RDC. Ce journal note que ceci est une manière pour les députés européens Louis Michel et Madame Laurette Antelinks, le vice-ministre belge, de contrer les démarches de Karel de Gauche. De son côté, le quotidien Uhuru estime que la visite d'un autre membre du gouvernement belge en RDC, deux semaines après la visite du ministre des Affaires étrangères Steven Van Ecker, est un signe qu'une nouvelle étape dans le processus de normalisation les relations belgo-congolaises et franchies. En vue d'assurer les soins de santé de qualité à nos compatriotes, les Belges et les Congolais signent un accord de coopération, conclut la référence plus.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur, un journal qui paraît à Kinshasa. Un petit commentaire par rapport à la revue que nous venons de suivre.
Oui, effectivement, ce sont les grands événements qui ont marqué l'actualité, étant donné que sur le plan politique, il n'y a pas eu de fait majeur, mais j'aurais aimé que nous puissions aussi jeter un coup d'œil sur le processus électoral qui est un peu tombé en léthargie avec tout ce qui s'est passé au niveau de la CI. L'opération de la révision du fichier électoral qui est stoppée net depuis qu'elle avait commencé à Kinshasa.
Merci Rombo. Le Chris Matadi, vous êtes secrétaire de rédaction au journal La Tempête de Tropique. C'est aussi un quotidien qui paraît à Kinshasa. Votre analyse, votre point de vue par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre?
Oui, les confrères ont presque tout ramassé. Ce sont les faits saillants qui ont alimenté l'actualité. Aussi bien sur le plan politique, culturel, économique et diplomatique, pendant la semaine, et je crois que tout a été bien fait, en fait, en respectant bien sûr la ligne éditoriale de chaque journal. C'est ça.
Olivier Baraka, vous êtes au Nord Kivu, vous êtes journaliste au journal Le Miroir de l'Est, c'est un journal qui paraît à Beni et distribué à l'Est du pays. C'est quoi l'actualité aujourd'hui au Nord Kivu?
l'actualité, alors vous restez dominé par la reprise des activités des ONG humanitaires dans le territoire de Massissi. Une reprise qui intervient après la médiation du gouvernement provincial et de l'organe délibérant en province, qui ont pu réconcilier la société civile de Massissi et la communauté humanitaire du Nord Kivu.
Merci Olivier Baraka. Premier terme de ce soir, le président congolais Denis Sassou Nguesso juge, je cite, grave et sérieuse la présence et les conditions humanitaires des plus de 100 000 réfugiés congolais ayant fui les affrontements de Dongo. Il souhaite leur retour le plus vite possible en RDC. Des réfugiés de l'Équateur, on en compte près de 107 000 dans la région de la Likwala au nord du Congo-Brazzaville, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Une situation que le président congolais Denis Sassou Nguesso juge grave et sérieuse, car le nombre des réfugiés dépasse celle de la population autochtone. Il a déclaré à l'agence France Presse à Addis Abeba en marge du 14e sommet de l'Union africaine. Denis Sassou Nguesso, qui juge par ailleurs épouvantable la situation humanitaire de ces réfugiés, souhaite leur retour le plus vite possible en RDC, rappelant que ces réfugiés ont fui des violences interethniques qui ont secoué la province de l'Équateur entre octobre et décembre dernier. Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur. Quelle lecture faites-vous des propos du président congolais Denis Sassou Nguesso?
Oui, Denis, effectivement, ce sont des propos d'un président responsable. Mais moi, je me dis qu'en principe, ces cris de détresse ne devaient pas provenir premièrement du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est devait être la préoccupation du gouvernement congolais qui a la mission de protéger le peuple congolais. Donc, en principe, le gouvernement congolais ne devait pas dormir tranquille tant qu'il se trouve aujourd'hui des compatriotes en situation de détresse en dehors du territoire national. Regardez un peu des pays comme la France, les États-Unis, lorsqu'il y a un seul d'entre les citoyens qui est détenu quelque part dans un pays étranger, c'est toute la classe politique qui est mise en ébullition, qui met tout en mouvement pour que les seuls Français, les seuls détenus américains soient libérés. Mais chez nous ici, depuis que les compatriotes se sont réfugiés au Congo-Brazza dans des conditions infrahumaines, c'est pratiquement l'indifférence totale. Au début, il y a eu...
Indifférence de la part de qui? Des autorités congolaises?
Absolument, c'est parce que depuis lors, il n'y a aucune stratégie qui est mise en place, d'abord pour ramener ces Congolais, parce que on peut se sentir mieux que ce soit. Or, ces Congolais qui sont aujourd'hui au Congo-Brazza ne peuvent pas se sentir à l'aise. Donc, c'est à notre gouvernement de mettre tout en œuvre pour que ces compatriotes reviennent dans notre pays. Et c'est ici aussi le lieu de se poser la question sur certains ministères qu'on crée à la vaille-que-vaille. Aujourd'hui, à quoi sert effectivement le ministère de l'action humanitaire? À quoi ça sert? Voilà l'occasion propice pour ce ministère de se mettre en œuvre. Mais or, sur le terrain, on ne sent pas, on ne le sent pas, ce ministère. Donc, il y a quelque part une défaillance au niveau du gouvernement.
Matadi Le Fils, secrétaire des rédactions journal La Tempête des Tropiques, vous pensez qu'il y a une défaillance au niveau du gouvernement congolais?
Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ils vient de dire mon ami. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire mon ami. Avec cette demande du président, ça se devait interpeller nos dirigeants. Le gouvernement devait réagir dans le sens de poser des actes de rapatriement plutôt que de s'illustrer par des réactions à chaud qui sont souvent creusées stériles comme dans ses habitudes. Sassou n'avait pas refusé d'accueillir nos compatriotes chez lui qui ont fui les affrontements des Dongo. Mais comprenez que c'est un principe naturel. L'homme est toujours allergique à une présence étrangère qui a tendance à perdurer. Si tout est revenu calme, comme le soutient notre exécutif, il n'a qu'à mettre sur pied les structures de rapatriement qui puissent rassurer que là où il rentre, ce n'est plus un enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat, ils n'auront plus à passer de nuit à la belle étoile, ils auront de quoi manger, ils auront s'habiller, et puis de quoi se soigner. Si tout cela n'est pas réuni, comment voulez-vous qu'il rentre?
Mais le gouvernement, excusez-moi de vous interrompre, le fils Matabil, mais le gouvernement a rassuré, le gouvernement a demandé à ses déplacés de revenir, de rentrer à Dongo, parce que les conditions étaient réunies, mais pourquoi ces déplacés ne veulent pas rentrer au pays, préfèrent rester au Congo-Brazzaville?
Madame, sur les 100% des Congolais qui avaient fui ces combats, 30% sont déjà rentrés. Je ne sais pas si vous êtes renseigné, aucune famille n'a jusque-là reçu l'aide du gouvernement. Les 30% qui sont à Dongo, ils courpissent dans la misère. Alors, les 70% quand ils viendront, vous vous demandez. Pour moi, je pense que les gouvernements devraient déjà poser des actes concrets qui puissent attirer ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent dans le calme. Sans même que le président se soit fait une pression, parce que là vraiment c'est un désengagement total du gouvernement. Je pense que les déclarations tapageuses du gouvernement, on en a plus besoin. Il faut qu'il passe aux actes.
Olivier Baraka, vous intervenez du Nord Kivu, vous êtes journaliste au journal Le Miroir de l'Est. Quelle analyse vous faites des propos du président Denis Sassou Nguesso? Comment perçoit-il dans le Nord Kivu?
Écoutez, moi je me dis, pourquoi le gouvernement devrait-il attendre que le président Sassou Nguesso puisse se laisser observer par après cette obscure maladie que nous avons dans ce pays? Donc, l'inquiétude du président Sassou Nguesso est tout à fait fondée. Il faut d'abord féliciter le Congo Brazzaville pour pouvoir avoir accueilli son patriote, mais ce message doit interpeller le gouvernement congolais. Écoutez, pour lui, j'estime que la situation de l'Ukraine au Congo Brazzaville aujourd'hui a trois aspects, il y a avant, pendant et après. Avant, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons, c'est un patriote qui fait à l'Ukraine le festif. Un appui, c'est-à-dire au retour du Congo Brazzaville, en plus que nous voulons nécessiter de l'appui, et après, quand ils seront tous rentrés chez soi, c'est le moment aussi qu'ils doivent aussi nécessiter de l'appui. La question n'est pas à considérer seulement un volet, dire qu'on doit les attendre à Bengo pour les assister. Moi, j'ai tendance à ce moment où ils doivent les assister, tout est un problème réel. Et je pense que le gouvernement congolais doit juste mettre au travail et voir dans quelle mesure les assistants. Et il ne doit pas nous dire, il n'y a pas de moyens, mais comment on a pu assister le gouvernement à ici alors que nous avons des problèmes chez nous. Et je trouve que c'est une question de volonté politique qui est assumée. On peut toujours les assister même au Congo de Brazzaville.
Quand vous parlez d'appui, il s'agit de quel appui?
C'est la plus humanitaire, ils doivent le minimum se manger d'abord, le reste peut venir après.
Kombo Taba, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces déplacés reviennent finalement au Congo? Parce que là, ça inquiète le président congolais Denis Sassou Nguesso, il ne peut pas garder éternellement ses déplacés chez lui.
Et, écoutez, là je suis direct, il faut que les gouvernements s'assument, il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Il ne faut pas que nous les Congolais, nous ayons toujours l'habitude de vouloir le pouvoir, et dès qu'on a le pouvoir, on ne sait pas l'exercer. Vous voyez, la vie de l'homme est sacrée. On ne peut pas prendre le pouvoir et laisser dans l'abandon total les hommes qui ont contribué à ce que ces hommes-là soient au pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, tout ce qu'on peut faire, si l'homme n'est pas mis au centre de toutes les préoccupations, encore que c'est devenu un slogan chez nous, nous voyons dans tous les discours, on dit voilà, l'homme au centre, mais nous voulons voir le concret. Je dis, il faut qu'il y ait des actions concrètes.
Quel action, par exemple?
Oui, prenons, au-delà de la situation de nos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il y a la prise en charge de l'homme congolais par le gouvernement. Donc, il faut voir qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement pour que l'homme congolais se sentent en sécurité. La sécurité alimentaire, les salaires, il y a les problèmes des salaires, même les Congolais qui travaillent aujourd'hui, il y en a qui restent des années, il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui totalisent 2 ou 3 mois, il y a 3 mois d'impayement en province, ne parlons pas des enseignants, il y en a aujourd'hui qui totalisent 5 ans, 6 ans, ils travaillent effectivement, mais ils ne sont pas payés. Donc il faut que le gouvernement s'assume et prenne en charge les destinées des Congolais. Donc il ne faut pas que, une fois qu'on s'installe au pouvoir, on ne voit que ses propres intérêts, on construit les villas à gauche, à droite, on s'occupe de ses propres affaires, alors que l'homme pour qui on a pris le pouvoir est resté abandonné dans son état total. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Au-delà de cette situation, il faut que le gouvernement prenne conscience de ses responsabilités. On peut bien construire des routes, on peut bien construire je ne sais quoi, mais tant que l'homme que Dieu a créé à son image est abandonné, tant qu'on ne s'occupe pas de cet homme-là, moi je pense que toute politique-là est vouée à l'échec. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que l'homme se sente à l'aise. Il faut donner de l'emploi aux gens, il faut leur donner les conditions meilleures pour faire étudier les enfants, pour se soigner dans de bonnes conditions. Si ces objectifs-là ne sont pas atteints, alors je me demande pourquoi on doit rechercher le pouvoir.
Le fils Matadi, quelle autre garantie le gouvernement peut donner à ses déplacés pour les rassurer du retour de la paix dans leur localité, puisque les FARDC occupent déjà cette localité de Dongo qui était attaquée par les Vénélés?
Madame, le gouvernement devrait, comme je l'ai dit, mettre sur pied des structures de rapatriement. Ils doivent rassurer nos compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent rentrer. Écoutez, la guerre a pulvérisé leur maison. Donc, on n'a presque plus d'habitation. Faut vous demandez à tous ces compatriotes de rentrer où ils vont dormir, parce qu'il n'y a plus de maison. Il y avait des tirs à l'arme lourdes, il y avait des bombardements et tout. Il n'y a presque plus de maison.
Ils vont reconstruire des cages ou des maisons?
Ils vont reconstruire quand? Quand, madame?
Il
leur faut des moyens. Je vous ai dit qu'il y a 30% de ces Congolais qui sont déjà sur place. Est-ce que le gouvernement a construit une seule case pour une famille? Je ne pense pas. Le gouvernement doit mettre des moyens. En fait, Sassou, moi je pense que le président Sassou a au moins les soucis de sa population. En France, par exemple, si les Français vont chez eux, voient leur autorité pour dire que non, voilà, nous on n'a pas d'emploi, il n'y a pas de travail et tout, on leur dit que la faute c'est aux immigrés, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui n'y a pas d'emploi. Ouais, donc le président Sassou ne veut pas vivre ce calvaire, il ne peut que agir comme il l'a fait. Notre gouvernement, à moins qu'il soit démissionnaire, vraiment il doit prendre ses responsabilités pour mettre tous ses compatriotes hors du danger, parce qu'ils seront ici et ils doivent vivre aisément et calmement chez eux.
Olivier Baraka, quelle solution finalement pour nos frères déplacés qui se trouvent au Brazzaville?
Le gouvernement dit qu'il faut que nos compatriotes rentrent, mais dans quelles conditions de rentrer? Je crois aujourd'hui qu'on doit pouvoir développer tous ces mécanismes pour rentrer. On ne rentre pas n'importe comment, mais imagine-toi, on est en train de dire sur les médias que la situation est rétablie à Dongo, mais qui est ce membre du gouvernement qui peut aller à Likwala, d'abord donner un état de réconfort à ces populations? Personne. Mais on est en train de dire qu'il faut rentrer, c'est très anormal. On doit d'abord aller les visiter, les rassurer des conditions et puis développer un mécanisme de retour.
Merci Olivier Baraka. Deuxième thème de ce soir, visite en RDC de Madame Laurette Okenix, vice-première ministre belge, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale. À la fin du séjour à Kinshasa de la vice-première ministre belge, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, un accord de coopération en santé et en sens médical a été signé mercredi dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. La partie congolaise a été représentée par le ministre de la Santé. Cet accord va du domaine pharmaceutique à la prise en charge des malades des diabètes, en passant par la formation continue des professionnels de la santé. Au cours du point de presse qui a suivi la signature de ces accords, la question de la présence du Royaume de Belgique à la cérémonie marquant les 50 ans de l'indépendance de la RDC a été évoquée. Madame Laurette Okenix a émis le vœu, en son propre nom, de voir la Belgique répondre positivement au cas où la RDC comptait son pays parmi ses invités. On écoute Laurette Okenix au micro de Noëlla Luzitu Kabangi.
Je parle à mon nom personnel, je ne vais pas parler ici au nom de mon gouvernement. Puisque c'est nous n'en avons pas parlé encore, tout simplement. Parce que pour moi, ce serait une marque de respect pour tout le processus d'indépendance, pour toute l'évolution et la reconstruction qui est en train de se nouer au Congo. Je suis totalement favorable à cette présence de la Belgique, si nous y sommes bien entendu invités. Réchauffement, resserrement, ça doit être au-delà des paroles échangées entre mes femmes politiques, entre diplomates, ça doit se concrétiser sur le terrain, dans le cadre de la construction et de l'indépendance. Et donc, je trouve qu'un partenariat basé sur des projets concrets peut apporter sa pierre pour la réussite, en quelque sorte, et les constats qui seront faits à l'occasion de la fête de l'indépendance.
Le CIF m'a fait dire, secrétaire de rédaction au journal La Tempête des Tropiques, est-ce qu'on peut placer cette visite dans le contexte du rapprochement, du réchauffement des relations entre la RDC et la Belgique?
Madame, nous devons cesser de faire croire à la population que si le pays est visité par des ministres européens ou bien par des secrétaires d'État américains, c'est que nous sommes sur la bonne voie pour sortir de la misère, ou bien c'est la perception du bout du tunnel. Tous ces envoyés viennent pour les intérêts de leur propre pays. Ils viennent tirer profit de leur pays démocratique du Congo. Et puis voilà, c'est pas dans les soucis de nous aider qu'ils sont ici. La vice-première ministre belge, c'est bien, elle a signé des accords, notamment dans le secteur de santé. C'est bien, mais quelque part, elle est aussi venue nous donner des leçons.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oui. Madame Laurette Okunlix, excusez-moi si j'ai massacré son nom, a été beaucoup plus diplomatique que Karel de Gauche. Parce que, heureusement, on n'a pas râlé juste après. Imaginez-vous, madame, 50 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, cette autorité belge devait juste venir nous donner des leçons dans le sens de dire comment s'organiser en mutuelle. Hein? Madame. Donc, nous ne savons même pas.
Vous pensez que c'est des leçons qu'elle est venue donner ou c'est un partenariat?
C'est pas un partenariat, madame. Moi, je pense que c'est dans le sens d'une leçon, une véritable leçon. Pour moi, c'est la honte. Elle a raison parce qu'à l'époque, on a vu aussi le CASOP, Caisse de solidarité ouvrière et paysanne. Je crois que c'était à l'époque de Mobutu. Et c'était une mutuelle. Où elle est à ce jour, parce qu'elle n'existe plus. Donc nous devons nous organiser nous-mêmes. Et puis à part ça, madame, ça c'est vraiment notre angle. Quand tous ces ministres viennent ici, nous alertons la planète entière. Donc il y a des tapages médiatiques et tout et tout. Chaque autorité qui les reçoit mobilise la presse à sa manière pour que sa poignée de main ne passe pas inaperçue. Je me demande si nos ministres, quand ils vont là-bas, il y a le même engouement. Ça m'inquiète aussi.
Rombo Tabal, journaliste au quotidien L'Observateur, un partenariat conclu dans le domaine médical entre la Belgique et la RDC. Qu'est-ce que la RDC peut tirer ou attendre de ce partenariat?
Non, je voudrais d'abord faire une petite réflexion par rapport à ce que le fils a dit. Voyez-vous, moi je n'ai pas de réponse à faire aux Belges. Lorsqu'ils doivent venir ici, nous avons décidé souverainement de devenir indépendants en 1960. Et si 50 ans après nous nous retrouvons là où nous sommes, je ne vois pas pourquoi nous devons condamner les Belges. C'est nous qui devons nous assumer. Et regardez dans l'hymne national, nous disons, nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et 50 ans après, regardez comment se présente le pays aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus beau qu'avant? Moi, je pense que quelque part, l'âme belge a quelque chose d'humaniste. C'est-à-dire, les Belges ne veulent pas nous abandonner totalement malgré notre turpitude. Donc, voyez-vous, quand aujourd'hui on vient signer un accord de partenariat, je pense que c'est parce qu'on sent que les Congolais, nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de nos propres responsabilités. Et lorsque nous avons décidé de devenir indépendants, c'est que nous nous sommes dit que nous sommes capables de nous assumer nous-mêmes. Mais si là où il y avait des dispensaires, aujourd'hui, toutes ces bâtisses-là sont tombées en ruine, il n'y a plus de dispensaires dans nos villages, il n'y a plus de d'hôpitaux dignes de ces noms dans nos villes, à qui la faute? C'est à nous-mêmes. Sous d'autres cieux, les mêmes pays qui avaient le même niveau que nous en 1960, aujourd'hui, ce sont des pays émergents. Il y en a même qui sont devenus pratiquement des pays développés, le Canada. Alors, si, moi je pense que si les Belges doivent venir, nous devons adopter le profil bas et écouter c'est ce qu'ils nous disent. Bon, mais à propos des
partenariats.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Nous sommes un pays en ruine. Nous n'avons plus rien et nous ne pouvons que à l'heure actuelle nous contenter de ce que les autres peuvent nous offrir. Mais moi je pense que à l'occasion de ce cinquantenaire, au lieu de perdre notre temps à des folklores, nous devons nous arrêter et décider d'adopter d'autres stratégies, de sortir des sentiers battus. En tout cas, ce n'est pas normal que 50 ans après, nous nous retrouvions là où nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi nous devons prendre des mesures qui s'imposent. Comme on dit, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Nous devons nous assumer. Et en Belgique aujourd'hui, la couverture sanitaire concerne pratiquement plus de 80% des Belges. Donc, si on est malade, on ne se fait pas de soucis. On sait qu'on appartient à une mutuelle qui doit s'occuper de vous. Mais regardez ici chez nous, combien de Congolais peuvent se soigner dans de bonnes conditions. Encore que c'est dans nos territoires aujourd'hui, lorsqu'elles ont des maux de ventre, elles prennent un avion pour aller en Afrique du Sud ou en Belgique. Donc, au lieu de renforcer les capacités de nos médecins, nous avons des médecins très compétents. Il y en a qui exercent aujourd'hui même en Europe. Alors, au lieu d'équiper nos hôpitaux, d'équiper nos hôpitaux pour permettre à nos médecins d'être plus performants, et ils se contentent d'aller se faire soigner en dehors du pays et nous abandonner. Non.
Mais pourquoi ce souci de la Belgique vis-à-vis de la RDC? Parce que nous sommes une colonie belge. Où ils ont leurs intérêts qui recherchent ici.
Non, mais qu'on le paye ou pas, nous sommes restés liés aux Belges pendant plus de 80 ans. Okay. C'est tout à fait normal. Il y a des liens affectifs qui nous collent aux Belges. Et donc, par conscience, par acquis de conscience, les Belges ne peuvent pas nous abandonner. C'est comme aujourd'hui les Français ne peuvent pas abandonner les Sénégalais, les Guinéens, les Congolais, les Gabonais, tout ça. Donc il y a des liens affectifs, c'est naturel. Moi je pense que c'est tout à fait naturel et c'est à nous à tirer du positif de ce que les Belges nous ont légué. Regardez. Et non seulement les infrastructures hospitalières qui nous ont aidés. Combien sont encore viables aujourd'hui? Alors moi je pense que c'est à nous ressaisir et ne nous contentons pas les 30 juin de fêter, d'organiser des défilés et après retomber dans la léthargie.
Olivier Baraka, en moins de 2 semaines, on a eu la visite de 2 autorités belges. Comment comprendre ça?
La Belgique a le souci de normaliser les relations avec la RDC après ce qui s'est passé avec le propos de l'Europe. Mais moi, si je dois revenir à l'accord de coopération en santé publique signé entre la RDC et la Belgique, je dis que c'est bon d'essayer un peu l'accord, mais ce n'est pas le premier accord que la RDC a déjà signé avec la Belgique, mais on ne voit pas le grand problème, on peut signer l'accord, mais en réalité, le résultat n'est pas visible. Tout ça limite à la situation, mais le réalisme, on ne fait rien de cet argent, parce que c'est aujourd'hui le système sanitaire dans l'ensemble des malades, on ne peut pas même accéder à des soins de santé primaire aujourd'hui. Mais en fait, on a fait en fait que cet argent est affecté. Moi, je dis maintenant, quand on reçoit de l'argent, ce n'est pas un don. Donc, toutes les personnes, c'est un don que nous contractons. Donc, j'en appelle à nos autorités de prendre conscience pour qu'ils utilisent cet argent à bon escient pour trouver un accord en santé publique. Ce n'est pas pour aller à ce quartier de village, à ma campagne ou ailleurs, mais. On devra être maintenant responsable, ça aussi, un accord qui n'est pas un des conseils au pays, et tout d'autre, on devra rembourser, je trouve que c'est très fini, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire à la population, et nous, satisfaire à toutes les gens, sinon, c'est un accord que les deux gouvernements signent. Et je crois que la population doit en être le grand bénéficiaire.
Le chiffre Martin dit, que dire des relations entre la RDC et la Belgique aujourd'hui?
Madame, je pense que les relations, bon, la Belgique, moi je pense que c'est un pays comme tous les autres, bien que elle nous a colonisés. Et puis nous devons définitivement nous débarrasser de ces carcans. Elle nous a colonisés durant 80 ans. On a été indépendant en 1960. Aujourd'hui, ça fait 50 ans. Il faut oublier tout ça. Les bonnes relations, on peut toujours les garder. Mais moi, quand je vois toutes ces signatures, tous ces accords de coopération dans tel ou tel secteur, j'ai pitié pour les Congolais parce que tout ça, c'est dans les intérêts des Occidentaux. Si la Belgique signe un partenariat avec la RDC, c'est la Belgique qui sera gagnante. Moi, je préfère encore les relations sud-sud, les partenariats sud-sud entre nous, les Africains, où chacun se retrouve, quoi.
Bombo Taba, la question de la présence du Royaume de Belgique à la cérémonie marquant les 50 ans de l'indépendance de la RDC, Madame Laurette Okeling fait le vœu en son propre nom, pas au nom du gouvernement, de voir la Belgique répondre positivement au cas où la RDC l'invitait à prendre part à ces festivités. Comment vous analysez cette phrase? Elle souhaiterait que déjà dans le milieu belge, la présence du roi belge pendant ces festivités fait déjà un débat.
Bon, Kelly, je peux peut-être vous décevoir. Pour moi, c'est un non. C'est pas ça qui m'intéresse. Que les rois des Belges soient là ou pas. Qu'est-ce qui va changer dans cet événement-là. Moi, je pense même que pour à cette occasion du cinquantenaire, on devait vraiment minimiser les côtés folkloriques de l'événement. Et parce que nous ici, nous risquons d'imprimer des wax, organiser des théâtres ici, c'est à gauche, à droite. Mais le fond du problème, c'est qu'est-ce que nous avons fait de 50 ans de notre indépendance. Je crois que la question fondamentale, c'est celle-là. Qu'est-ce que nous avons fait pendant les 50 ans de notre indépendance? Est-ce que nous allons continuer à diriger ce pays de la même manière? Le reste, moi, je pense que vraiment, c'est à minimiser. Que les Belges soient là ou pas, je sais que le gouvernement congolais a adressé une invitation officielle au roi des Belges pour qu'il soit là présent. Bon, il y a beaucoup de chances qu'il soit effectivement là parce que, comme je vous dis, la Belgique a une responsabilité historique sur notre pays pour démontrer à la face du monde que les relations sont encore excellentes entre nos deux pays. Le roi des Belges peut être là. Mais je reviens sur ma question fondamentale. Au-delà de cette présence, qu'est-ce que nous allons tirer comme dividende? C'est pourquoi je me dis que, pour nous les Congolais, nous devons mettre à profit ces festivités pour arrêter une fois pour toutes des stratégies pour démontrer à la face du monde que nous sommes réellement un pays indépendant. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, pour une petite intervention, pour repeindre le mur de nos écoles, pour réhabiliter quelques avenues de la ville de Kinshasa, c'est l'Union européenne qui doit intervenir. Alors, je me pose la question. Pourquoi sommes-nous devenus indépendants? Laissons alors les Belges revenir, continuer à diriger.
Par Olivier Baraka, certains observateurs pensent que la RDC est trop dépendante de l'Occident. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, écoutez, je vais abonder dans le même sens que les deux conseillers Rondeau et Matabou le souffle. Écoutez, la préoccupation de ces observateurs, c'est tout à fait fondé. Et quand on devra avoir c'est pas de ne pas vraiment nous baser à des points, c'est un peu de dépendre, mais quand ça dit que ça commence à déborder, on doit peut-être un 50 ans. On veut que les Congolais fassent le bilan de ces 50 ans. On est en train de se préoccuper de la venue de la France, la venue de la Haine et de la Belgique, mais ça, c'est un peu de bord. Pour ce centenaire, il faut avancer un événement du pays. La présence de la politique de notre nation en quelque sorte, mais moi j'estime qu'on devra arriver à jouir du fruit de cette souveraineté. Nous disons que nous sommes un pays souverain, la souveraineté en tant que quelque part l'indépendance, c'est ce qu'on le cas aujourd'hui, on doit prendre une chose à main, savoir que la destinée de ce pays, c'est d'abord avant tout une affaire nationale, avant que ça a été une affaire énorme.
Rendons-nous au Palais du Peuple pour parler de l'adoption hier jeudi au Parlement des projets de loi sur la protection du patrimoine culturel congolais. Vous l'avez deviné, c'est notre dernier terme. Les deux chambres du Parlement congolais ont finalement adopté hier jeudi les projets de loi qui autorisent le gouvernement congolais à ratifier la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Plus de détails avec vous, Julien Yamouini.
Cette convention est d'une importance capitale pour la RDC, d'abord parce que le pays compte plusieurs dizaines d'ethnies. Ensuite, chaque ethnie dispose des expressions culturelles qui sont menacées par des cultures de pays puissants et riches grâce aux nouvelles technologies. La convention proposée par l'UNESCO vise pour l'essentiel la protection et la promotion de cette diversité culturelle que compte la RDC. Faute de cette protection, la perte de l'identité est indiscutable. Le Parlement l'a bien compris. Voilà qui justifie l'adoption par les deux chambres du Parlement cette convention de l'UNESCO. Dans son rapport, la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat estime que la protection de ce patrimoine culturel procède du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnues à tout groupe. La ratification de cette convention implique des avantages préférentiels en termes d'échanges culturels avec le reste du monde, y compris, selon la commission, la création des industries culturelles et les transferts de nouvelles technologies.
Olivier Baraka, pensez-vous que l'adoption de ce projet de loi pourrait aider à la valorisation de la culture congolaise?
C'est ça le vœu, l'adoption, à mon avis, c'est salutaire. Parce qu'il y a ceux qui pensent que le patrimoine culturel de la RDC s'est limité seulement à parler de la musique. On voit parfois les œuvres d'art, tout ce qu'il y a dans les musées. On ne faisait pas le minimum pour le faire promouvoir et le faire connaître au public. Mais quoi, avec cette loi, tout le monde de la volonté, tout ça peut aller. Mais ce que je fais dans ce pays, on peut bien adopter une loi. Mais le problème réside à l'applicabilité de la loi. On en a signé beaucoup de lois qui n'ont pas été malheureusement appliquées sur le terrain. Donc, là, c'est encore une fois de la tâche du gouvernement. Dès que la loi sera promulguée, c'est le gouvernement qui doit maintenant mettre en exécution. Et toi, il y a des petites choses quand même, on doit essayer de transcender, on ne peut pas toujours les faire appliquer. J'espère que désormais, tout ce qu'on peut trouver déjà voté, et qu'on sera promulgué d'ici là, c'est le gouvernement qui doit se mettre, pouvoir mettre en valeur tout ce qui a été dit par les deux chambres du Parlement.
Merci Olivier. Le fils Matadi, Olivier Baraka pense qu'on peut bien adopter des lois, mais le problème réside dans son application. Que pouvez-vous dire de l'état des lieux de la culture congolaise?
Merci madame. La culture congolaise, la culture en général, c'est le soubassement d'un peuple. C'est même son identité. La culture, c'est les valeurs positives d'une communauté. On espère que cette loi qui vient d'être votée par les deux chambres du Parlement protégera véritablement notre patrimoine culturel. Sur le plan ethnique, par exemple, vous n'avez que à sillonner à travers la ville de Kinshasa, vous posez des questions, vous faites un micro-baladeur, par exemple, demandez à tous les jeunes garçons ainsi que les jeunes filles qui se baladent à travers la ville s'ils maîtrisent au moins leur langue maternelle. Ce sera moins de 10%. Ça, c'est peut-être plus sur le plan ethnique. Madame, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'était l'année passée, en 2009. On était au musée national. C'était dans le cadre d'une visite de travail que le vice-premier ministre Jean Mobutu avait effectuée. On est arrivé là-bas, toutes les œuvres d'art de valeur volées. Alors que ce site, le musée national à Mongaliema, c'est sous haute surveillance de la garde républicaine. Où sont allées toutes les œuvres? Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Parce que c'est ça notre identité. Il n'y avait pratiquement rien. Le ministre a failli tomber à l'envers. Le malheur pour lui, c'était quoi? Il avait déjà visité ces musées 10, 15 ans auparavant, quand c'était encore un véritable musée, quand le maréchal Mobutu l'entretenait personnellement. Mais quand il a vu le musée en 2009, c'était vraiment scandaleux. Sur son visage, on pouvait lire la déception. Nous disons que l'Assemblée nationale et le Sénat qui viennent d'adopter cette loi vraiment feront de... En fait, après le vote de cette loi, bien entendu la promulgation par le chef de l'État, il y aura peut-être un changement dans ce sens-là.
Merci, le fils Matadi, Rombo Taba, la culture, l'air de ne valorise pas sa culture. Pourquoi? Comment on explique ça? Et pourtant, on sait que la culture contribue seul au développement d'un pays.
Oui, Olivier a pratiquement tout résumé. Hein. On vote des lois, mais quitte de leur application. Et moi, je vais un peu plus loin. Est-ce que nous connaissons la valeur des lois que nous votons? Connaissons-nous leur contenu? Nous avons tout un ministère de la culture et des arts. Est-ce que les ministres, pas l'actuel, tous ceux qui se sont succédés à ce côté-là, connaissent-ils vraiment les véritables missions? Parce que, voyez-vous, par exemple, ce que nous vivons, je ne voudrais pas critiquer certains confrères qui prêchent dans les émissions musicales à la télévision. Regardez la tenue des danseuses. Est-ce que vous avez entendu une seule fois le ministre de la Culture et des Arts, le gouvernement, interdire cette exploitation-là de nos jeunes filles?
Moi, j'ai entendu ça. Oui, malgré ça, ça continue.
Un ministre doit agir. Ou bien, on a le pouvoir, on ne l'exerce pas, on démissionne. Un ministre ne peut pas se plaindre. Un ministre prend une décision et il agit. C'est pas normal.
Mais la décision n'est pas respectée.
Mais justement, mais c'est que il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'État dans le pays. Parce que s'il y a le pouvoir, le pouvoir doit s'exercer, on doit le sentir. Regardez même aujourd'hui là, le Lingala que nous parlons, c'est quel Lingala? On est en train même de valoriser une certaine formule là, je ne sais pas le Lingala facile ou quoi, sur nos chaînes, sur nos radios. Et vous savez, cette formule là, quand moi j'étais encore gosse, on appelait ça Indoubi. Et l'Indoubi là, c'était associé à des voyous. Quand quelqu'un utilisait cette formule-là, le langage, on l'identifiait à un voyou. Mais aujourd'hui, ça passe partout, tout le monde.
Il faut permettre à la population chinoise d'avoir l'accès facile à l'information pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre le français.
Non, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le lingala originel qui peut se comprendre? Moi, en tout cas, à l'école, on m'a appris aussi le lingala et le kikongo, le vrai, là, l'authentique. Je crois que c'était dans ce souci-là de sauvegarder cet acquis culturel. Mais aujourd'hui, on se plaint que voilà, nous sommes en train de perdre notre identité, mais entre-temps, on favorise justement cette aliénation mentale. Mais il y a quelque part une contradiction, c'est pourquoi je me pose la question de savoir si nous connaissons nous-mêmes la valeur des lois que nous proposons. Mais il y a aussi des évidences. Il ne faut pas tellement que l'ONU, l'UNICEF ou l'UNESCO prennent une convention pour que nous nous attachions à cette convention. Nous-mêmes, nous devons valoriser notre propre culture. Nous ne devons pas attendre que l'on revienne du dehors. Donc c'est bien beau de prendre une loi. Je pense qu'après la promulgation de cette loi, on va bannir certaines antivaleurs qui sont véhiculées à travers notre musique, notre langage et que les autorités tolèrent.
Merci Rombo Taba, c'est par vos propos que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous aussi le fils Matadi et à Olivier Baraka qui est intervenu depuis la province du Nord Kivu. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Samuel Kachak a réalisé pour vous cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou. Je suis Kéline Couté. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de programmes de Radio Capi. Thank you.